Alfred de Musset, l'anglais mangeur d'opium. Ô lecteur, je vous offre, lecteur bénévole, l'histoire d'une époque remarquable de ma vie. Si vous n'y trouvez l'agréable, soyez sûr d'y trouver l'utile. C'est dans cette espérance que j'écris, et ce sera mon excuse si je parais soulever trop hardiment ce voile de pudeur ou de pitié dont se couvre avec tant de soin l'infirmité et l'erreur. Rien, en effet, n'est plus révoltant pour la délicatesse anglaise que le spectacle d'un être souffrant. L'esprit a ses plaies et ses blessures aussi cruelles et souvent plus horribles que celles du corps. Tels sont peut-être les tristes objets qu'il vous faudra voir dans ces confessions extrajudiciaires. Et cependant, si nous eussions voulu mettre en sympathie avec la société décente où chacun sait tenir son quant à soi, n'avions-nous pas pour point de mire la littérature française, où cette partie de la littérature allemande emprunte encore de la faiblesse et de l'exquise sensibilité des Français? Cela, je le sens si bien et si fort que j'ai longtemps hésité à laisser mon livre, ou une partie de mon livre, m'exposer nu aux yeux de tout le monde. Et ce n'est qu'après avoir mûrement réfléchi à toutes les raisons pour ou contre que je me suis décidé à me confesser avant ma mort. Car alors, pour plusieurs motifs, tout doit être connu. Le crime ou la misère s'écartent du grand jour, ce qu'ils doivent aimer, c'est la solitude. Jusque dans le commun cimetière, la mort va les reléguer à la dernière place et leur refuse le titre de frère dans la grande famille des hommes. Mais puisque mes confessions ne sont pas des révélations de crime, et que d'ailleurs, même dans cette hypothèse, il peut en résulter quelque bien pour autrui, j'ai dû faire violence à la règle par l'utilité d'une expérience que le lecteur peut acheter à bon marché. L'infirmité et la misère, d'ailleurs, ne sont pas toujours crimes. Ils forment ou subissent cette triste alliance en proportion des motifs et des vues du coupable, et des palliatifs connus ou secrets en proportion des tentations plus ou moins puissantes et de la résistance plus ou moins heureuse dans ses efforts. Pour ma part, sans offenser la vérité ou la modestie, je puis dire que ma vie a été entièrement celle d'un philosophe. Dès ma naissance, pendant mes jours d'écolier, les plaisirs que j'ai poursuivis étaient intellectuels. Si les plaisirs de l'opium sont sensuels, et si je dois avouer que je les ai recherchés jusqu'à un excès dont on n'avait point gardé d'exemple, il n'en est pas moins vrai que j'ai lutté avec un zèle religieux contre cette entraînante passion, et que j'ai fait ce que nul autre n'avait fait. J'ai brisé, presque jusqu'au bout, la chaîne maudite qui m'entourait. Une telle conquête doit faire oublier une telle faiblesse. Ajoutez encore que le triomphe est toujours inattaquable, tandis que l'on peut excuser la défaite selon quelle est la consolation d'une peine ou la recherche d'un plaisir. Pour le crime, j'en repousse donc l'idée, et quand elle serait juste, il serait possible qu'on me la pardonnât, en considération des services que je peux rendre à la classe entière des mangeurs d'opium. Mais où sont-ils? Lecteur, j'en suis fâché, mais ils sont en grand nombre. Je m'en suis convaincu, il y a quelques années, en calculant combien de gens alors, dans une petite classe de la société, celle des hommes distingués par leurs talents ou par les postes éminents qu'ils occupent, pouvaient être comptés parmi les mangeurs d'opium. Ainsi, par exemple, l'éloquent M, le dernier comte de Lord, M le philosophe, un dernier sous-secrétaire d'État, qui me raconta quelles sensations il avait éprouvées le premier jour qu'il en prit, dans les mêmes termes que le comte de savoir qu'il lui semblait que les rats lui rongeaient l'estomac. M et plusieurs autres aussi connus qu'il serait trop long de nommer. Maintenant, si une classe si limitée peut fournir tant d'exemples, et cela sur l'enquête d'un seul observateur, n'en doit-on pas inférer que l'entière population de l'Angleterre en donnerait un nombre proportionnel? J'en doutais cependant jusqu'à ce que des faits venus à ma connaissance m'eussent confirmé dans cette conclusion. J'en rapporterai deux. Premièrement, trois respectables pharmaciens de Londres, dans les différents quartiers de la ville, me dire, en me vendant quelques grains d'opium, que la quantité des mangeurs d'opium était immense et que la difficulté de distinguer les personnes à qui l'usage avait rendu ce poison nécessaire de celles qui en achetaient dans un dessein sinistre leur attirait chaque jour des reproches. Voilà pour Londres. Deuxièmement, quelques années après, passant à Manchester, plusieurs entrepreneurs de manufactures de coton m'assurèrent que l'habitude de prendre de l'opium s'introduisait parmi les ouvriers, tellement qu'un samedi dans l'après-midi, les comptoirs des pharmaciens étaient couverts de petits paquets d'un ou de deux grains d'opium préparés d'avance pour le soir. La cause de cette mode était la modicité des prix de journée qui les privait alors du moyen de se procurer de l'aile et des liqueurs spiritueuses. La hausse aurait donc dû la faire cesser, mais comme je ne puis croire qu'un homme ayant connu de pareilles jouissances puisse revenir ensuite au premier usage de l'alcool, je tiens pour certain qu'on peut le prendre avant de le connaître, mais non le quitter l'ayant pris. Sérieusement, le pouvoir de l'opium a été admis par les médecins mêmes qui sont ses ennemis. Ainsi, par exemple, Aswiter, apothicaire de l'hôpital Greenwich, dans les essais sur les effets de l'opium publiés en l'an 1763, essayant de trouver pourquoi Mead avait trop peu expliqué la nature et les propriétés de ce poison, s'exprime ainsi mystérieusement. Phonatas unetoisi, à savoir je m'adresse à des gens avisés. Peut-être a-t-il trouvé le sujet trop délicat pour être communiqué au public, et comme beaucoup de gens pouvaient en user sans discernement, la crainte qu'il fallait en inspirer a pu détourner les gens sages d'en faire l'expérience. Il y a dans l'opium des propriétés qui, si elles étaient connues, en rendraient l'usage plus commun chez nous que chez les Turcs eux-mêmes. Et ce résultat, dit-il, prouverait une misère générale. Je ne suis pas d'accord sur la conclusion, mais j'en parlerai à la fin de mes confessions, où je compte offrir au lecteur la morale de cet ouvrage.